Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma qui est encore très cannoise comme la semaine dernière avec les Don Quichotte de la critique, Sophie Avon de Sud-Ouest, Daniel Eman qui a gardé sa veste blanche du Festival de Cannes de Bande à Part, avec Jean-Marc Lalanne des Arts Incorruptibles, mais avec une voix un peu fatiguée
par la, patraque, ouais.
La clim des salles du Festival de Cannes.
Entre autres,
et avec Nicolas Chalère de l'Obs. On parle ce soir, je vous le disais, de films qui étaient soit en compète à Cannes, soit dans des sections parallèles, En guerre de Stéphane Brisé, L'homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam, Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré, le film de Faraday, le Star Wars bien sûr, Gueule d'ange, et puis si on a le temps, on dira un mot de la fête des mères. Dans le courrier post-Cannes de la semaine, eh bien Roland Lanuzel n'a pas aimé, lui par exemple, Plaire, aimer, courir vite. Il a jugé les poncifs sur les gays pathétiques. J'ajoute que dans sa vision sur la Bretagne, Monsieur Honoré a oublié les crêpes et le pâté Hénaff. Quant à moi, qui suis à la fois gay et breton, je retourne tricoter la coiffe bigoudaine arc-en-ciel que je porterai fièrement à la Gay Pride. Pour Loïc Jousny, c'est aussi une déception. Film nombriliste qui regarde l'homosexualité sous son angle le plus narcissique. Il faut dire que Vincent Lacoste, sous Louis Garrel, inexpressif et tellement encombré par une orientation sexuelle qui lui semble étrangère, n'aide pas à sauver le film. Je passe sur la somme de clichés sur la Bretagne, le cidre Loïc Raison, l'inévitable bouteille de Chouchen. Ça les frappe beaucoup, ça, hein. L'incontournable évocation du verbe baragouiner. Pierre Cusor, lui, a eu un peu de mal, il le reconnaît, avec les 30 premières minutes du film d'Honoré. Mais la première scène de baignoire digne d'une Pietà m'a fait baisser les armes. La seconde scène avec un aria de Handel m'a fait pleurer. Un film avec de très beaux dialogues, très écrits, avec un Vincent Lacoste, alors lui qu'il juge sublime de justesse et de candeur. Le même Pierre Cusor, en revanche, a vu le film d'Asghar Farhadi, dont on va aussi parler ce soir, en aucun cas un grand film, mais un bon divertissement, nous dit-il, avec des longueurs, un suspense qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et une fin attendue, film idéal pour ouvrir un festival, mais en aucun cas pour une compétition d'un si grand renom. Sinon, Geoffroy Klomkes de Bruxelles avoue en avoir eu un peu peur en nous écoutant parler de The Avengers. Je ne l'avais pas encore vu, mais je savais qu'il réservait une surprise et je craignais que ça démange fortement vos critiques. Je voulais cependant apporter ma pierre à ce débat de manière très simple. Bien sûr qu'on peut, nous dit-il, apprécier un film en connaissant la fin. On peut même le découvrir autrement. Mais c'est aussi à cela que servent les deuxièmes visions. Et surtout, chaque spectateur doit pouvoir avoir le choix de prendre connaissance ou non de la fin. Lui révéler la fin, c'est le priver de ce choix, ce qui me paraît inadmissible. C'est assez logique.
Oui. Hein ?
Oui. Bon, sinon, à propos de L'île aux chiens de Wes Anderson, Dominique Beauchamp de Massy félicite Michel Simon d'avoir signalé le beau court-métrage de Serge Avedikian, intitulé Chienne d'histoire, film d'animation qui avait reçu la Palme d'Or du meilleur court-métrage à Cannes, et effectivement où l'histoire qu'il raconte, c'est celui d'une déportation sur l'île déserte d'Oxia en 1910 de 60 000 chiens d'Istanbul, ce qui évidemment est très proche du film de Wes Anderson. Et enfin, le feuilleton Kechiche continue, on va peut-être le terminer ce soir, parce que je voudrais pas aller jusqu'à l'été avec.
Et là, c'est Jean... la sortie du deuxième, peut-être.
Là, c'est Jean-Pierre Chambert qui est très, très mécontent contre nous. Je voudrais vous faire ressentir le désespoir. Ça me paraît un peu excessif. Des directeurs de salles qui ont programmé Mektoub My Love, alléchés par l'avalanche des scandaleuses critiques dithyrambiques qui ont salué, y compris au masque, ce monument de vulgarité et de vide sidéral. L'aveuglement de la critique. Ça, c'est pour vous, devant cette nudité et révélatrice de l'esprit de carte.
On est sûr que c'est pas Michel Simon qui a écrit.
Oui, non, c'est pour un exploit.
C'est Jean-Pierre Chambert. Bon, allez, on commence évidemment, vous n'allez pas y échapper, puisqu'il a été présenté à Cannes hors compétition, c'est le nouveau Star Wars Solo, le Star Wars Story de Ron Howard, scénarisé par Laurence Kasdan, 69 ans, auteur fétiche de George Lucas, et premier film de la série dans lequel l'interprète du pirate loubar Han Solo n'est plus évidemment Harrison Ford, mais Alden Ehrenreich, dont le film exalte la jeunesse. Il fait la connaissance de son futur copilote, Chewbacca. C'est Jonas Suotamo. Il prend les commandes du mythique vaisseau Millennium Falcon et il croise la route de l'escroc Lando Calrissian. C'est Donald Glover, film en 3D de 2h15. Dont il paraît le tournage a été calamiteux et dont notre ami Nicolas Chalère a noté effectivement quelques énigmatiques dialogues. J'aurais pu le faire aussi, c'est « À mon signal, noie l'admission et passe en bilatéral ». Et aussi un très énigmatique, le coaxial brut déraffiné devient instable.
Oui, oui, c'est...
Mais, j'ai
c'est...
bien aimé aussi la formule, je t'ai pas encore donné la parole, de Libération cette semaine, en parlant de ce film, un western SF dévitalisé au délicieux goût d'eau de vaisselle. Ça, je connaissais pas encore ce... Oui, donc tu maintiens tes citations, Nicolas ?
Bah oui, oui, oui. Bah, je pense que s'il faut aller voir le film, elles sont toujours à l'écran. Oui, non, mais c'est la comparaison avec un western est assez juste. Mais moi, ça me fait vraiment penser à ces westerns de série B qu'on tournait à la chaîne à l'époque où le western était roi, c'est-à-dire dans les années 40-50, vraiment pour remplir les salles. Mais alors, à l'époque, ces westerns, ça coûtait 2 sous. C'était toujours les mêmes histoires avec des acteurs pas très charismatiques. Là, c'est quand même un film qui coûte près de 200 millions de dollars, que tout le monde attend comme le Messie, comme tous les Star Wars. Et là, ça commence à suffire un peu. Alors, faut quand même revenir sur la genèse assez chaotique du film. C'est-à-dire qu'il y a eu deux réalisateurs, Phil Lord et Chris Miller, qui voulaient apporter une touche un peu plus comique à la série, qui se sont fait débarquer en plein milieu du tournage, qui étaient les auteurs notamment de la grande aventure Lego.
Oui, mais on va
Lego.
Pas raconter toute l'histoire de Star Wars parce que sinon.
Et alors, il y a eu beaucoup de problèmes. Et alors, ça se voit à l'image. C'est-à-dire que la mise en place, les Star Wars, on attend des grandes scènes d'ouverture. Là, il se passe rien. C'est-à-dire que tout est sous-exposé. On a l'impression qu'ils ont voulu baisser la lumière pour pas qu'on voit qu'ils avaient pas fini les décors. Ah si, vraiment le début du film. Moi j'étais assez ébahi par j'essayais de comprendre où étaient les personnages. Enfin, et alors ça démarre avec une mollesse. Alors l'acteur principal,
c'est donc, assez mou.
Alden Ehrenreich, qui est, alors c'est quand même l'histoire de Han Solo, c'est quand même le héros le plus charismatique de Star Wars, c'est-à-dire cette espèce de mercenaire.
C'est pas ce qui caractérise Ehrenreich.
Voilà, un mercenaire assez cynique, assez et en même temps très cool Alors là, il affiche toujours un sourire un peu niais. On a l'impression, on lui a dit souris de façon, histoire de dire que tout ça n'est pas très grave, qu'il y a vraiment une incompétence
sortir.
Dans ce film, le scénario n'a aucun intérêt. Les rencontres, alors qu'ils sont censés être assez mythiques avec Chewbacca, je m'en souviens, honnêtement, on l'a vu à Cannes, je m'en souviens même pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bon, alors, non, mais voilà, c'est bon.
C'est une platitude. Alors voilà, Ron Howard.
On sent que tu n'aimes pas. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, même hors compétition, alors que ce festival manquait à ce point de films américains, on a cru bon de le projeter malgré tout en sélection.
Parce qu'ils ont payé un très beau feu d'artifice, très bruyant. Il y avait un feu d'artifice. Ils ont montré vraiment leur puissance Disney, mais c'était pas sur l'écran.
Daniel.
Alors vraiment, bon, alors je me disais, mais je m'ennuie tellement, mais c'est pas possible. Alors j'ai perdu l'innocence. Pourtant, j'ai beaucoup aimé Star Wars. Alors c'est sûrement de ma faute. Puis quand même, je me dis, non, c'est le film qui n'est pas bon. Alors il n'y a que du baston. Alors que quand même, Star Wars, il y a des scènes de comédie, il y a des personnages qui sont emblématiques. Et là, il y a effectivement des vaisseaux qui vont très très vite. Il y a quelques très beaux plans des Dolomites, presque plus beaux que les effets spéciaux. Vraiment, une belle montagne, très belle montagne. Et la seule chose qui m'est touchée, c'est l'arrivée de Chewbacca. Je me suis dit, au moins celui-là. Oui, voilà, j'ai retrouvé mon Chewbacca. J'ai retrouvé Chewbacca. Non, mais franchement, la naissance du héros, c'est pas un héros, c'est un bon petit jeune homme qui a des soucis. Voilà. Et je dois dire que là, le film vient de sortir et c'est le plus mauvais démarrage de toute la saga. Donc les gens ne sont pas naïfs.
J'ai vu les chiffres,
ils sont pas très bons,
Jean-Marc.
Bon, c'est effectivement pas bien du tout, mais j'ai le sentiment que c'est un peu fait exprès. C'est-à-dire qu'on veut clairement.
Ah là, faut que tu m'expliques. Comment ça peut être fait exprès?
Il y a l'idée de qu'il y ait une démarcation entre les films qui sont dans la ligne officielle, l'épisode 7, l'épisode 8, qui sont pensés comme des grandes formes des séries A, et les side projects comme Rogue One il y a deux ans, comme celui-là qui était un peu mieux, qui était pas génial non plus, mais qui doivent avoir l'air d'être juste des films pour patienter, pour comme ça, pour contenter les fans. Et je pense que clairement, il ne faut pas qu'on confonde l'un et l'autre. Donc c'est plus un film d'action, plus une série B.
Ah bah oui,
mais effectivement, ça n'a même pas la vertu énergique d'une série B parce que c'est un peu poussif, un peu ennuyeux. Moi, en le regardant, ce qui me fascinait, c'était de me dire que c'était Ron Howard qui filmait et que contrairement à Rian Johnson, par exemple, ou à J.J. Abrams, Ron Howard n'était pas du tout un enfant lorsqu'il a vu La Guerre des Étoiles. Et je trouve que ce qui est très beau dans l'épisode 7 et dans l'épisode 8, c'est qu'il y a un regard d'enfant qu'il filme les icônes qui l'ont formé comme cinéphile, et que là c'était déjà un adulte, et en plus un adulte qui a été lancé par George Lucas. Donc il y a une espèce de drôle de retournement oedipien, et on voit que c'est totalement désinvesti pour lui de filmer la rencontre de Han Solo et Chewbacca, parce que ça ne constitue pas pour lui un fétiche.
Enfin, vu le, encore une fois, le coût de ce film, j'arrive pas à croire qu'ils ont fait exprès de.
Je crois que clairement, d'un côté il y a les films extrêmement cérémonieux,
mais c'est contre-productif,
qui bénéficient d'une direction artistique. Oui, mais je trouve ça pas assez bien, mais on peut essayer de
sortir quelque chose. Mauvais ou pas, on peut pas savoir, c'est pas forcément un bon film qui va marcher, donc de toute façon, ils exploitent le filon. Alors, en effet, si le film fait exprès de pas être bon, bah, c'est réussi.
C'est de la pure exploitation qui doit se montrer comme telle.
Non, mais bien sûr, ton argument est très juste.
Qu'en penses-tu, Sophie?
Eh bien, je pense qu'il est vraiment, il réussit à être très mauvais, le film, hein, il y arrive très bien. Je trouve que il y a aucune imagination dans le scénario, aucun souffle dans la mise en scène. Jean-Marc l'a très bien dit, une façon de dévitaliser, on dirait qu'il s'en fout. Quand Howard, il va à l'efficacité, il prend la main après, il faut dire, hein, et on a le sentiment qu'il se débarrasse des scènes, il fait le minimum, quoi, pour l'idée de donner un nom, de pourquoi il s'appelle Han Solo, c'est une idée rigolote. On aurait pu faire des choses intéressantes avec ça. Oui, mais je veux dire, Solo, parce qu'il est seul, je veux dire, c'est le degré zéro quand même de l'expérience. On n'a pas l'impression qu'ils se sont un peu creusés la tête pour essayer au moins de trouver quelque chose qui soit un petit peu sympa, amusant. Il y avait des choses à faire avec le prénom. Bref, pas de souffle. Et en plus, je trouve qu'il y a une fascination pour la destruction, pour l'explosion, pour l'effondrement. Mais plus que la baston, toi, les paysages qui explosent. Alors, je sais que c'est un blockbuster, mais quand même. Là, il y a quelque chose de presque malsain dans ce goût pour ça, les décibels, la musique. C'est épouvantable.
Bon. Solo, Star Wars Story de Ron Howard. Vous parlez trop vite, j'avais l'impression d'entendre Jean Renoir. Non, Ron Howard. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non. Sous un titre anglais, Everybody Knows, un film 100% espagnol de l'Iranien Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem et l'Argentin Ricardo Darín, un film qui se déroule dans un petit village espagnol, je crois que c'est à 50 km de Madrid. On célèbre un mariage dans la liesse, Laura, c'est Penélope Cruz, revient pour l'occasion d'Argentine où elle a fait sa vie avec Alejandro, c'est Ricardo Darín, à qui évidemment le village, ça va être un des sujets, prête une grosse fortune et qui lui n'a pas pu faire le voyage. Débarque Laura donc avec ses deux enfants, un petit garçon et une ado asthmatique qui se prénomme Irène, et à peine la fête a-t-elle commencé qu'Irène est kidnappée. Voilà, Paco, c'est Javier Bardem, un viticulteur, qui a autrefois follement aimé Laura et qui va tenter de retrouver les rançonneurs. J'en dis pas plus, même si contrairement au film précédent de Farhadi, l'énigme va être révélée et résolue même avant la fin. Toujours chez Farhadi, hein. C'est les couples en décomposition, c'est les vieilles haines du passé qui ressortent, et c'est le basculement d'un événement ordinaire en presque tragédie. Un film très mollement accueilli à Cannes, où il était en compétition. Et je crois que c'est même la première fois qu'un film de Faradine est reçu de manière aussi mitigée par d'ailleurs la plupart de vos journaux, hein, parce que moi j'ai lu les étoiles dans le film français. Moi je l'aime, mais peut-être je suis un des rares. Jean-Marc, j'ai l'impression que...
Oui, toi, moi je trouve ça plus mauvais que Solo Star Wars Story, oh, par exemple, et au moins tout aussi cynique. C'est un film d'un cynisme inouï.
Cynique,
oui, je pense que c'est vraiment un auteur qui décline sa marque de fabrique, qui peut vendre à n'importe qui, mais sans savoir tellement pourquoi. Il y a vraiment un degré de dévaluation d'une forme qu'il a créée, allant même jusqu'à inscrire dans le film, en commençant son film par un mécanisme d'horlogie, dans l'horlogie, et on sait que l'engrenage, c'est vraiment la forme qui détermine tous les récits de Faradine. Et là, je pense qu'en montrant ces plans comme ça du mécanisme qui détermine le son des cloches dans un clocher, il montre les coutures de son cinéma d'une manière qui se veut maligne, qui surtout très très cynique et surtout très improductive. Parce que son mécanisme, comme ça, à créer des petits secrets, du mystère, ne fonctionne plus que pour lui-même, ne produit plus aucun réel mystère, et sa critique sociale, je la trouve vraiment consternante, à tel point qu'elle est convenue. Il y a une sorte de misanthropie, un peu de salon, totalement inopérante, et il y a deux stars espagnoles, hollywoodiennes, totalement perdues dans cette espèce de montage bizarre. Je pense vraiment que c'est la ruine d'un certain idéal de cinéma d'auteur performant publiquement.
Eh bien, c'est ce qui s'appelle une exécution. Sophie.
Ah non, moi je suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc. Moi, je fais partie de ceux qui ont aimé le film. Je le trouve au contraire, il n'a pas la pureté, la trajectoire pure qu'avaient les premiers films qu'on a aimés de Faradine, mais dans ses torsions même, dans ses nœuds, dans ses articulations.
Tu penses à propos des lits.
Je pense à propos des lits et à une séparation notamment. Enfin, ces deux premiers films.
Même La Fête du Feu.
Ou La Fête du Feu, qui était tout à fait premier. Mais je trouve que c'est quand même le même cinéma. Moi, je trouve assez fascinant qu'il, en plus, qu'il se débarrasse comme ça de la langue, de la culture, de sa culture, même s'il écrit le scénario en farsi, pour adopter comme c'est une culture qui n'est pas la sienne, je trouve qu'il y a quelque chose de triculoté là-dedans.
Il avait déjà fait avec le passé.
Bien sûr, donc il le refait
en France.
Oui, là il le fait avec l'Espagne, mais je trouve ça intéressant. Alors on peut penser que c'est du cynisme et qu'il veut faire un truc formaté. Moi, c'est pas comme ça que je le sens, parce que moi je vois son cinéma. Et le paradoxe, c'est qu'il arrive, à mon avis, c'est pour se passer de la langue et arriver à l'essentiel et arriver à quelque chose qui est évidemment universel. Mais le paradoxe, c'est qu'il arrive à faire un film éminemment espagnol et éminemment personnel, parce qu'en effet, il fait semblant de faire tu parles du clocher moi j'ai vu plus le clocher et la vie de clocher et la vie du village que le mécanisme de l'horloge. Mais du coup, il arrive quand même à il fait semblant de faire un thriller. Le clocher, ça renvoie aussi à ça et ça renvoie.
Alors qu'il fait une telenovela.
Il fait semblant de faire une telenovela. Il fait semblant même de faire un mélo à la Almodovar. On a d'ailleurs.
C'est absolument.
Mais il fait semblant de faire ça, mais à la vérité, il fait son cinéma qu'il a toujours fait, qui est un cinéma philosophique. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui n'est pas du tout... Il utilise le tragique espagnol, mais en fait, c'est un cinéma qui n'a rien d'une tragédie. C'est-à-dire que ça ne vient pas de la fatalité. La démonstration qu'il fait, c'est qu'on est responsable de sa vie. C'est un film sur le fait qu'on doit assumer la vie qu'on a choisie par une suite de choix successifs. Et ça, c'est éminemment philosophique. Et quand le passé vient frapper à la porte, eh ben, on a des comptes à rendre. Et ça, ça a toujours été ça, ces films. Ça a toujours été de cette trempe-là. Et moi, je trouve qu'il arrive à montrer ça dans un tout autre décor que celui de l'Iran, de manière qui me touche. D'ailleurs, je trouve c'est un film auquel on pourrait donner des adjectifs qu'on donnerait à des vins. D'ailleurs, il a l'ampleur, il est long en bouche, il décante bien.
Il a de la cuisse, hein.
Il a de la cuisse, si tu veux. Mais il est charpenté. Oh. Non, mais qu'est-ce que tu as dit, une piquette? Non, il est peut-être un peu alcoolisé, mais il est charpenté. Moi, je trouve que c'est un film très convaincant.
Nicolas?
Moi, je suis, je commence comme Sophie au début du film. Je me dis pourquoi pas. Enfin, je suis pris l'installation de l'intrigue. Moi, Faradine, pour moi, ça a toujours été surtout un grand scénariste, un grand directeur d'acteur, plus qu'un, j'allais dire, un formaliste. Et au début, bon, je trouve la mise en image un peu comme ça, un peu à l'emporte-pièce. Mais bon, je suis pris dans le récit. Et petit à petit, je me rends compte et je rejoins plus le rang de Jean-Marc. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'effectivement, qu'il veut nous faire passer les vessies d'une telenovelas pour des lanternes. J'allais dire, on va pas sortir des grands mots, mais j'y crois de moins en moins vraiment en tant que spectateur. spectateur, il y a quand même des charnières et des révélations au fur et à mesure où moi c'est pas le passé qui frappe à la porte. J'ai l'impression que c'est un scénariste qui vient nous faire gober des choses de moins en moins crédibles. Et d'ailleurs il y a vraiment des moments dans la salle où les gens à Cannes il y avait des moments où les gens riaient un peu quand même.
C'est pas un argument. Deuxièmement, c'est pas bon de le raconter.
Pourquoi?
C'est pas bon.
Non, mais j'y crois. Alors après, bon, Bardem s'en sort plutôt bien. Moi, je trouve qu'il est. On sent par contre en revanche que Penélope Cruz, il sait pas trop quoi faire du personnage. Non, je suis assez déçu. Je vois vraiment. Je trouve que il y a toujours un piège des grands cinéastes comme ça, des grands auteurs mondiaux à aller de sortir de leur pays pour aller tourner à l'étranger. Déjà dans le passé, je trouvais qu'on sentait déjà un début de. On sentait qu'il n'était pas dans son élément, notamment vis-à-vis par rapport au langage. Et là, c'est vraiment sur l'écriture. J'ai l'impression qu'il enfonce un peu des portes ouvertes et qu'il est sur
un mécanisme. Daniel.
Oui, j'aurais préféré l'aimer davantage. C'est vrai que j'ai l'impression que l'exposition, on a pratiquement la révélation de ce qui va se passer dans les 10 premières minutes. Enfin, la première visite des jeunes dans le clocher, bon, il se passe quelque chose, il y a des initiales gravées dans la pierre. Ah oui, ah d'accord, ok. Bon, et donc les révélations sont toujours en retard de ce qu'on sait. Et donc, c'est ça qui m'a gênée, parce que bon, tous les films de Farhadi peuvent s'appeler le passé, et ça, je trouve qu'il a une façon de remuer le passé, de faire émerger le passé, qui est unique.
Bon, le propre des autres films, c'est qu'évidemment, le spectateur travaillait davantage.
Voilà.
Parce qu'on ne comprenait pas toujours l'énigme.
Oui, il reste des zones d'ombre.
Mais oui, voilà. Il y a toujours des zones d'ombre.
Mais là, il n'y en a pas.
Non, il
n'y
en a pas. Et c'est vrai que le côté.
Les plans sur les pieds gadoueux, c'est pas.
Voilà, mais le côté polar qu'il avait déjà à propos d'Eli, qui était une merveille. Voilà, il y a des petits polars. Et là, effectivement, je trouve que le dispositif est quand même très lourd. Oui, sûrement, il y a la fête du mariage et il faudrait la vidéo. Alors, elle vient, la vidéo. C'est-à-dire qu'il nous retarde toujours des révélations que l'on a déjà eues par ailleurs. Et donc, je n'ai pas pu adhérer véritablement au drame et j'ai regardé le couple de stars au lieu de regarder les deux personnages. Voilà.
Everybody Knows, le film d'Asghar Farhadi, des réactions sur ce film, non. Très loin de son adaptation de Maupassant, une vie, mais très près de La loi du marché. En guerre, le film de Stéphane Brisé qui était en compétition à Cannes, avec, comme dans La loi du marché, le très impliqué, très puissant Vincent Lindon. Il est ici Laurent Amédéo et prend la tête d'un mouvement de grève à Agen dans une usine de sous-traitance automobile, l'usine Perrin, qui appartient au groupe allemand Dimke et que la direction a décidé de fermer alors qu'elle faisait des bénéfices et qu'un accord d'entreprise avait été signé 2 ans plus tôt avec les 1100 salariés qui avaient accepté de baisser leur salaire. Et pendant 1h50, caméra à l'épaule, Brisé filme les moments fort de cette grève, les manifs à Agen, le voyage à Paris pour discuter avec le conseiller social de l'Élysée, l'occupation du siège du MEDEF, le combat mené pour rencontrer et faire vaciller ce Martin Hauser, qui est le patron allemand, l'espoir de trouver un repreneur. Alors là, il se passe un moment que je ne connaissais pas, je l'avoue, c'est-à-dire que les salariés trouvent leur preneur, mais Hauser, qui est en train de casser cette boîte, refuse de le vendre, de vendre sa boîte au
repreneur.
Et il a le droit, paraît-il, de ne pas la revendre. Et puis aussi, au sein des grévistes, évidemment, les dissensions syndicales qui vont être fatales au mouvement. Course contre la montre, contre la mort, jusqu'à un épilogue qu'on va pas raconter. Tout cela tourné en 23 jours, avec 3 caméras, et mise en scène avec beaucoup d'acteurs non professionnels. J'ai trouvé ce film d'une force, d'une portée assez impressionnante. Un peu déçu qu'il n'ait rien reçu au festival de Cannes. Daniel.
Je trouve ça bouleversant. C'est pas une caméra embarquée comme pendant la guerre. C'est une caméra immergée. C'est-à-dire que on est avec eux, on est au milieu de ces gens-là. Et Vincent Lindon, bon, quand même, c'est un acteur connu. Il est avec eux, il est en colère comme eux, et je trouve que là, il n'est pas excellent, il n'est pas bon, il est vrai. Et moi, j'ai été totalement bouleversée par ces non-professionnels qui sont dans leur propre rôle. Il y a trois de ces syndicalistes non-professionnels et acteurs dans le film qui ont été conseillers au scénario, dont Olivier Lemaire, qui est le costaud, qui a été ouvrier, qui a été syndicaliste militant et qui maintenant est expert en juridiction du travail et qui maintenant s'occupe de faire les plans sociaux. C'est-à-dire qu'il a fait toute l'orbe, et c'est dans le film. C'est-à-dire que Brisé donne aussi la parole à la partie adverse. C'est-à-dire que ça
oui,
n'est
mais
pas...
parce que c'est pas un film manichéen.
Voilà,
justement.
C'est pas du tout manichéen. C'est comme dit l'autre, chacun a ses raisons. Et ça, je trouve que c'est bouleversant. Non, moi, je trouve que c'est un film qui a un élan et qui a une colère et qui est en guerre. Voilà, et on est en guerre avec eux.
On a même le sentiment, enfin l'impression, je ne connais pas la réalité, que tout est improvisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte écrit.
C'est ça. On est immergé. On est immergé.
C'est très écrit.
Il y a cette fille.
Alors que c'est très écrit, je crois.
Il y a cette fille incroyable, Mélanie. Qui s'appelle Mélanie aussi. Ouais. Et alors, j'ai demandé, mais qui est Mélanie? Elle m'a dit, non, mais elle n'est pas dans l'usine là, parce que non, elle, en fait, elle est soudeuse. Oui, bah, elle est soudeuse, voilà.
Tu l'as dit, il a fait tourner, il a fait tourner 600 personnes de l'usine où ça a été tourné, qui était à Fumel, c'est pour ça que je te disais ça, parce que la véritable usine est à Fumel,
mais enfin, c'est pas d'Agen. Dans le film, c'est Agen.
Dans le film, voilà, c'est Agen, bien sûr, c'est pour ça que. Mais là où je ne suis pas d'accord c'est avec toi, Jérôme, dans ta présentation, c'est que je trouve que ce n'est pas du tout un film comme La Loi du Marché. Alors, c'est un thème analogue,
non, j'ai dit qu'il était en compétition c'est... comme La Loi du Marché à Cannes et toujours avec Vincent Lindon.
Bien sûr, voilà. Parce que, j'avais compris. Oui, parce qu'en effet, moi, ce qui me gênait dans La Loi du Marché, c'était sa sécheresse. Je trouvais qu'il manquait un peu de transcendance quand même. Et malgré ses qualités. Alors que là, ce qui m'a bluffé et ce qui fait que je trouve que le film passe en force, même, et d'ailleurs, c'est un film sur un passage en force et il passe en force, c'est la façon épique qu'il a de raconter ça. C'est une épopée. Il y a un moment où on a l'impression qu'il dresse une armée, quoi. Oui, mais c'est la guerre, mais vraiment, il le figure à l'écran. Et il y va, enfin...
Sans qu'on sache ce qui va se passer.
Parce qu'on ne sait pas qui va gagner jusqu'au bout. Oui. On ne sait pas qui va gagner de cette espèce de... Et de cette, finalement, de cette, comment dire, de cette lutte des classes, il fait quelque chose avec une ampleur, une dimension, une vraie puissance. Et c'est effectivement d'autant plus fort que le scénario est, je crois, très documenté, très écrit. Ouais. Et comme tu l'as dit, en effet, c'est un film militant, politique, mais c'est pas un film dogmatique parce que chacun en effet a ses raisons et la seule chose.
Il paraît qu'il s'est inspiré beaucoup de la fameuse scène des cadres d'Air France dont on a arraché les chemises pour montrer que les choses étaient plus complexes.
Après j'ai une simple réserve sur le fait est-ce que c'est pas un film un peu franco-français notamment à cause de la fin dont évidemment on ne dira rien. J'ai en parlant à Cannes de ça beaucoup de gens n'ont pas du tout aimé
cette
fin-là.
Tu penses que c'est la raison pour laquelle il a été un peu éjecté.
Oui, je pense que c'est pas forcément universel, même si malheureusement la lutte des classes est internationale.
Jean-Marc ?
Oui, moi aussi je trouve le film supérieur à La Loi du Marché, moins uniformément gris et moins dans un processus d'accablement du personnage. Ce qui est beau là, c'est que le film essaie vraiment de constituer un working class héros. Et ce qu'il raconte, même si on ne peut pas dire la fin, c'est que cet héroïsme qu'il travaille vraiment à construire ne suffira pas. Et que c'est au sacrifice de son propre corps, en fait, que la situation...
Non,
c'est vraiment pas grand-chose de dire ça.
Non.
Et là où le film est fort, c'est vraiment aussi sur la manière de construire de très longues scènes de parole. Il y a quelque chose qui rappelle un peu le film de Campillo là-dessus. Ouais. Et on sent que c'est quand même très dramatisé et qu'il y a un sens de la rhétorique et une capacité à construire un suspense uniquement dans une joute verbale qui est assez impressionnante.
Nicolas.
Je vous rejoins assez. Après, moi, j'ai un vrai souci sur l'écriture du personnage de Lindon et qui, je trouve, du coup, se répercute sur la fin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut pas s'empêcher au début, et c'est là où Lindon est fort, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de voir Lindon parmi des acteurs anonymes. Et il arrive, il nous gagne parce que c'est un bon acteur, qu'il est fort, qu'il s'intègre dans la chose. Après, je trouve que le scénario, en revanche, a du mal à un moment, je trouve qu'il dialectise ça, d'ailleurs, au moment où il y a une scission entre les syndicalistes. Et lui, il est jusqu'au boutiste, il ne veut pas accepter le chèque qu'on leur propose pour arrêter la grève. Et il va aller jusqu'au bout. Et je trouvais que là, il y avait une belle idée d'un personnage de fiction tellement idéaliste qui va au-delà des contingences du réel. Et à la fin, je trouve que le film essaie de donner une incarnation et d'ancrer le personnage dans une vie familiale qui est totalement surprenante par rapport à ce que je vais malheureusement pas révéler, mais ce qui se passe vraiment la scène suivante. Il y a une manière d'essayer d'ancrer le personnage dans une réalité de Lindon qui est très maladroite et qui moi me sape vraiment la fin du film.
Je suis pas d'accord du tout, mais on n'a pas le temps de.
Voilà. Alors le problème c'est qu'on peut pas révéler la fin. Et moi, à part cette réserve là, enfin ça m'a vraiment gâché la portée du film. Après, je trouve effectivement il y a une force de l'indignation, il y a quelque chose de contemporain qu'on peut pas nier au film et qui est vraiment assez puissant.
Si je puis me permettre, allez voir En guerre, le film de Stéphane Brisé. Pas de réaction, si une réaction sur ce film. Bonsoir.
Bonsoir, Cédric Lependru, Citizen Critique. Je suis embêté parce que moi, j'avais beaucoup aimé vraiment La loi du marché sur un thème similaire, hein, les problèmes sociétaux, les problèmes dans les entreprises. J'aime beaucoup la filmographie de Brisé. Je suis pas là pour être aimé, notamment. J'avais trouvé que c'était très subtil. Là, j'ai été très dérangé par la forme du film parce que moi, j'y ai vu ni plus ni moins qu'un film de propagande. De propagande, oui. C'est-à-dire, on reconnaît la propagande à deux caractéristiques. La première, c'est que c'est totalement manichéen. Il n'y a aucun contre-champ sur la partie adverse. Vous dites qu'on a le point de vue de la partie adverse, mais elle est systématiquement stigmatisée et vue comme des purs salauds. Parce que je suis désolé, si il y a une espèce comme ça de capacité à attaquer systématiquement le capitalisme rénant, qui est complètement pour moi donquichottesque, c'est-à-dire qu'on voit que les Allemands, c'est des gros méchants, comme si aujourd'hui, d'ailleurs, dans le cas d'espèce de la mondialisation, c'était le capitalisme allemand qui posait problème à la France. Déjà, je trouve ça un petit pas surprenant. Et ensuite, l'autre chose à laquelle pour moi on reconnaît un cinéma de propagande, c'est le côté, je suis désolé, on dirait vulgairement putassier, mais pour dire de manière plus bienveillante, sous la forme de la rhétorique, de la captation de bienveillance. Alors je sais bien que selon vous, une réaction de salle n'est pas un argument, mais moi j'ai vu une salle qui huait les capitalistes. Oui, à chaque fois que Vincent Lindon prenait la parole, j'avais une salle qui faisait « Ouh, les grands méchants capitalistes !» Et quant au côté documentaire, le fait d'avoir récupéré l'arrachement de chemise d'Air France, moi, évidemment, je suis plutôt politiquement favorable aux syndicalistes. Sauf que là, la scène est quand même démesurée en termes de violence. Et il laisse passer ça.
Quoi, la scène du film.
La scène où le patron allemand. La scène où le patron allemand va finir par être chahuté. C'est pas la fin que je révèle. Après, moi, je trouve comme c'est un film qui est centré sur Lindon et que Lindon. Vous avez parlé de sacrifice tout à l'heure. Effectivement, c'est plus au-delà du sacrifice. Je veux dire, c'est christique la dimension qui lui est donnée. Et effectivement, le contre-champ sur la famille est inepte.
Pourquoi pas?
Puisqu'on a un Christ au sein de ses disciples. Sans révéler la fin, évidemment.
Merci pour cette intervention. Non, on arrête parce qu'il y a d'autres films. On n'aura pas le temps sinon. Allez, Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré qui raconte une histoire d'amour au temps du sida. Et je dois avouer qu'il a eu le cran de présenter à Cannes un an après 120 battements par minute. C'était pas évident. Le réalisateur de Chansons d'amour situe son action en 1993. Arthur, c'est Vincent Lacoste, le double évident d'Honoré. Est étudiant à Rennes, il est fou de cinéma, de littérature. Il a une copine, mais il préfère les garçons. Et au Théâtre National de Bretagne et dans un cinéma de Rennes qui projette La leçon de piano, il rencontre un dramaturge parisien et dandy, deux fois plus âgé, c'est Jacques, qui est joué par Pierre de La Donchamp, révélé, je vous le rappelle, dans L'inconnu du lac de Guy Roudy, qui élève un fils en garde alternée et qui est atteint du sida. Pour ne pas montrer à Arthur le mal qu'il ronge, Jacques se cache dans l'appartement de son ex et voisin, c'est Denis Podalydès, à qui d'ailleurs la moustache va très bien. Impossible histoire d'amour, où l'on cite Coltès, Isherwood, Truffaut, qui pourrait être très sombre, mais qu'Honoré, je trouve, a réussi à rendre presque légère parfois avec En prime et en BO la chère Anne Sylvestre et sa chanson Les gens qui doutent, un film qui dure 2h10. Jean-Marc.
Oui, le film est très beau précisément pour ça, parce qu'il ne cesse de retarder le moment de déflagration émotionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui est d'une science acrobatique dans la façon de jouer sur une forme de légèreté, d'humour, vraiment à l'image de la grâce, pour le coup, acrobatique de Vincent Lacoste, qui est vraiment une sorte de funambule extrêmement gracieux. Et face à lui, il y a Pierre de La Donchamp, qui est un acteur qui est beaucoup plus premier degré dans son rapport à l'émotion, qui est un peu dans une relation de feu doux à l'émotion, et dans le dernier quart d'heure, tout à coup, ça se déverse et le film devient absolument bouleversant. Christophe Honoré revient un peu à ce qu'il faisait de mieux, à ses plus beaux films, Dans Paris, Les chansons d'amour, sa façon de dessiner comme ça des chroniques sentimentales qui ont l'apparence de la légèreté, mais qui ont une très très grande acuité pour aller très très profondément dans les gerçures du cœur. Et puis il y a une façon de restituer les années 90, notamment à travers une bande son musicale que je trouve absolument impeccable, étant de la même génération que Christophe Honoré, le film me bouleverse aussi pour ça, pour la justesse avec laquelle il évoque ce monde qui, dans le film, paraît à la fois proche et déjà très très lointain, avec des répondeurs téléphoniques, des cabines téléphoniques. Et il y a quelque chose de très beau aussi dans la manière dont il filme l'archaïsme de la fin du XXe siècle, qui déjà nous semble séparé par un fossé et qui a été comme ça exterminé par une épidémie tragique.
D'ailleurs, je précise que précisément à propos d'épidémie, il prépare pour la rentrée une pièce qui va s'appeler Les Idoles, où il met en scène beaucoup de victimes culturelles du sida, Demy, Guibert, Lagarce. Danet, Coltès, Cyril Collard. Nicolas.
Ça fait partie d'un triptyque, oui, avec son précédent
absolument.
Bouquin, son récent livre qui s'appelait Ton père, je crois. Oui, bah non, mais moi c'est le film que je préfère de ce programme, parce que effectivement, il y a, comme le dit Jean-Marc, il y a Honoré, je suis pas toujours forcément client, mais là je trouve que il trouve vraiment le sujet, à la fois le sujet personnel, intime, et en même temps le sujet qu'attendait sa sensibilité. Il y a toujours chez Honoré quelque chose d'un peu heurté, c'est-à-dire qu'on le sent animé par des mouvements à la fois contraires, à la fois très mélancolique, très romanesque, en même temps toujours un côté littéraire ou une pudeur qui ne veut pas aller trop loin. Et là, je trouve qu'il trouve vraiment le sujet. C'est vraiment une histoire d'amour empêché. C'est l'histoire de deux solitudes qui finalement n'arrivent pas vraiment à se rencontrer. Et ce qui fait notamment ce que disait Jean-Marc des téléphones. Moi, je trouve ça vraiment très très beau. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée de régulièrement dans le film, il y a des appels comme ça. On appelle au téléphone et puis il y a personne au bout du fil. Il y a un moment, il y aura vraiment plus personne au bout du fil. Et ça, vraiment, c'est une idée digne d'une. Comme il aime beaucoup les chansons de variété. C'est vraiment que c'est comme une très belle chanson qui vous reste et qui vous hante. Et je trouve que c'est un film vraiment très touchant. Et les acteurs amènent, je trouve, en plus, une énergie nouvelle chez Honoré. C'est-à-dire que c'est bien, je trouve ça bien. Au début, c'était Louis Garrel qui devait jouer le rôle de Loi Donchamp. Et je trouve ça bien, finalement, qu'il ait pris, qu'il y ait quelqu'un d'autre au final, qui est de la Donchamp et surtout Podalides, qui amène quelque chose de plus, j'avais dit presque de sauter. Moi, j'ai pensé à Claude Sauté à certains moments dans ce film.
Sophie.
Oui, c'est très beau. J'aime beaucoup le film. Alors, bon, je vais pas répéter tout ce qui a été dit et très bien sur l'amour, sur le précipité de la vie. Comme ça, on passe de la jeunesse à la mort sans passer par la vieillesse. Et du coup, c'est déchirant. Et en même temps, c'est enjoué. Bon, tout ça, c'est très beau. Et ce qui me reste aussi, et dont on n'a peut-être pas parlé, c'est un film sur la transmission culturelle aussi. Mm-hmm. C'est un film qui n'a pas peur de la culture, un peu comme Sivérac, n'a pas peur
absolument
de citer. Et c'est pour documenter l'époque, mais il y a, alors vous
et
l'avez
puis,
dit, Truffaut, la
livre,
fin,
film, théâtre, livres, voilà.
Et c'est
tout,
beau,
hein,
cette idée de rendre hommage à cette culture qui a fait de lui, eh ben, l'artiste qu'il est aujourd'hui, les livres, les films. Et moi, ça m'a encore plus bouleversée que peut-être et que le reste.
Est-ce que c'est à cause du film de Campillo que j'ai eu le sentiment qu'il passait un peu à travers ce festival de Cannes sans être...
Je pense qu'il a pâti forcément de ça. Après, ouais, il ressemble, il faut dire aux gens qui ne l'ont pas vu, il ne ressemble absolument pas à 120 battements.
Non, je sais bien. Non, mais
oui, mais c'est pour le
bien
dire au public.
J'ai vu les deux, mais j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé.
Oui, parce qu'il a
passé
vraiment été ignoré.
Oui, moi j'avais un peu quitté Christophe Honoré parce que Les Malheurs de Sophie et Métamorphose.
C'était bien Les Malheurs de Sophie.
Moi, j'aimais pas trop. Et Métamorphose, j'aimais pas trop.
Non, il y en a un, le vide, je suis passé un peu à côté.
Le vide, je suis passé à côté. Et là, j'ai retrouvé absolument tout ce qui faisait effectivement les chansons d'amour et ses plus beaux films. Et c'est un film totalement intime et totalement universel. Enfin, je veux dire, il arrive. Et les trois acteurs sont formidables. Vincent Lacoste, Pierre de la Donchamp
et Podalides.
Et Podalides, l'ami. Et il y a, en effet, pendant toute cette espérance d'amour, cette tendresse, cette volatilité du temps qui reste. Et je trouve que on garde ce film. C'est un très beau film inconsolé. Voilà, c'est un film inconsolé et magnifique.
Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré. Pas de réaction sur ce film. Gueule d'ange, qui aurait pu aussi s'appeler Coup de tête, c'est le premier long métrage de la photographe, vidéaste, musicienne Vanessa Philo, coécrit avec Diastème et François Pirou, un film qui était présenté, lui, à Un certain regard, avec Marion Cotillard, qui s'offre un rôle de mère alcoolo et des cheveux blonds platine. Je crois que c'est la première fois qu'elle joue ce rôle. Là, Marlène Wissel, avec Lily, sa fille de 8 ans, sa gueule d'ange, qui donne du whisky à ses peluches, et une nuit, après avoir rencontré dans une boîte de nuit un homme qui est incarné par Alban Lenoir, Marlène décide de partir en laissant sa fille livrée à elle-même. Et dans le rôle de la petite qui trinque, c'est Hélène Axois Etex, que j'ai trouvé d'ailleurs assez formidable, aussi formidable que le film m'a terriblement déçu. Sophie.
Eh bien, oui, il m'a aussi beaucoup déçue, mais à vrai dire, j'en attendais pas forcément grand-chose. Mais des films sur l'enfance, sur la petite enfance, elle a 8 ans. Dieu sait qu'il y a eu des modèles, des exemples et des enfants livrés à eux-mêmes.
On en voit plein quand même, franchement.
C'est ce que je dis. Dieu sait qu'il y a eu des exemples et du petit fugitif à Truffaut en passant par Ponette, enfin, et Piala, bon. Et je trouve qu'on a l'impression qu'elle a rien vu de tout ça et qu'elle filme l'enfance dans ce qu'elle a de plus mièvre, de plus, avec des joliesses, avec des arabesques, avec quelque chose qui, me semble-t-il, tue complètement son sujet. Et en plus, un scénario qui est assez incohérent parfois, parce que cette petite fille qui ne va plus à l'école, qui renonce à aller à l'école, mais qui finalement fait quand même son spectacle de fin d'année, on ne voit pas très bien comment c'est possible. Je trouve que elle exagère un peu trop l'alcoolisme de la mère, qui
évidemment... Marion Cotillard elle-même.
Marion Cotillard n'est pas forcément au mieux de sa forme, j'allais dire, à tout point de vue. Mais même la petite fille que tu trouves bien, moi, je ne la trouve pas toujours très juste. Et je pense qu'elle n'est pas très bien dirigée aussi.
C'est pas évident à jouer. Hein.
C'est pas évident à jouer, c'est vrai. Elle n'a que 8 ans, c'est vrai. Mais quand elle trépigne en disant « je veux pas que tu me laisses, je veux pas que tu me laisses » à Alban Lenoir, qui lui est très bon.
Mets-toi à sa place.
Non, mais d'accord, mais elle est pas... moi, j'y crois pas, quoi. Certes, mais c'est artificiel. Ce ne sont que des artifices et ce ne sont que des clichés. Donc le film, il marche pas.
Allez, on va un peu vite parce qu'il y a encore deux films à évoquer.
Marion Cotillard en fait des tonnes, elle en boit des tonnes, elle en fait des tonnes. Et bon, et en plus, elle est toujours sur la même ivresse. Et bon, à un moment donné, on est assez soulagé qu'elle se taille. Ouais. Mais.
Pas la petite, hein.
Mais justement, je trouve que ce film tient uniquement par la présence extraordinaire de cette petite fille, qui n'en fait absolument pas, qui est totalement intériorisée, qui est d'une solitude énorme et qui est. Mais d'une justesse et d'une présence et d'une souffrance pas extériorisée, je trouve que c'est une petite révélation absolue. Et j'ai donc supporté le film grâce à cette petite fille.
Nicolas, quelques mots sur ce film.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Inversement, je trouve que j'ai pris plus de plaisir à la prestation de Cotillard, qui effectivement fait des tonnes. Et moi, c'est plus ce qui m'intéressait dans le film. Et à partir du moment où elle quitte le film, ça m'ennuie un peu.
C'est bizarre parce que quand même. Jean-Marc.
Moi, je trouve que la matière du film, elle est pas mièvre du tout. Le sujet, il est vraiment passionnant, la manière dont elle se choisit un père. Mais ce qu'on lui a légué pour approcher un homme, c'est uniquement un mode hystérique de séduction. C'est vraiment passionnant. Mais d'une part, je pense que le film est vraiment, mais gravement endommagé par son actrice, Marion Cotillard, qui peut vraiment être parfois remarquable. Oui, là, elle se vautre.
Toujours juste en général.
Elle se vautre dans la misère de son personnage. Il y a quelque chose d'extrêmement qui produit une gêne totalement improductive. Et par ailleurs, je pense que la mise en scène ajoute trop de sirop sur la proté du sujet. C'est-à-dire qu'elle fait des chromos, elle fait des plans de fond sous-marin. Il y a quelque chose d'un peu sucre d'orge dans la direction artistique du film qui esquive ce que le sujet avait vraiment d'intéressant.
Et ça dure 1h50. Allez, vite, L'homme qui tua Don Quichotte, ce n'est pas le producteur Paolo Branco qui a tout fait, vous le savez, pour empêcher sa sortie après un gros imbroglio juridique. C'est le nouveau film de Terry Gilliam, qui est aussi le cinéaste de Brésil, le roi de la poisse, tout le monde le sait, l'empereur de la Skoumoun. Je rappelle le plus vite possible que Gilliam rêve à cette adaptation totalement folle du Quichotte de Cervantes depuis 30 ans, et que la première version, celle de 2000, fut marquée par le retrait à cause d'une double hernie discale de mon cher cavalier Jean Rochefort, et l'arrêt évidemment immédiat du tournage. Aujourd'hui, le film de 2h12 réunit Adam Driver, Jonathan Pryce et Olga Kurylenko, où l'on voit un réalisateur de pub, Toby, qui est joué par Adam Driver, revenir en Espagne sur les lieux de son film d'étudiant, qui est une adaptation très lyrique de Cervantes. Il est rattrapé par son passé, il part pour ce village où il avait tourné et rencontre un vieil acteur qui se prend pour le chevalier à la triste figure, c'est Jonathan Pryce. Film totalement halluciné, où il ne reste pas grand-chose de Cervantes, et dont même la sortie a été délirante, puisque je vous rappelle que le premier producteur, Branco, arguait que le film lui appartenait, pendant que Terry Gilliam, sous le choc, faisait un AVC. Il y a des conditions plus agréables pour sortir un film. Je peux pas dire que j'aime ça, mais vous allez peut-être le défendre bien. Jean-Marc.
Ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'on voit un film qui est sans cesse en concurrence avec la légende de sa fabrication, et même quand tu viens de le dire, une couche s'est rajoutée avec sa sortie très tumultueuse. Et le film ne peut pas du tout rivaliser, d'autant plus que ce que le film raconte, c'est le tournage impossible d'un film sur Don Quichotte. tout ça, le fait que les
films... Et l'adaptation de Cervantes, c'est impossible. Voilà.
Et je pense vraiment que le film est en trop, en fait. C'est une sorte d'objet surnuméraire qui abîme la légende et on a vraiment le... On est embarrassé, ça serait mieux que ça n'existe pas, qu'il n'existe que la story qui précède ce film.
Ouais. C'est ça, il aurait gagné à être maudit, ce film vient de pas sortir et à n'être vu à la limite que par nous, et puis, mais ce qui est fou, c'est qu'à quel point il intègre le making-of de ses 25 ans de galère dans le film, dans le propos, et ça commence quand même par, et maintenant, après 25 ans de besogne et de foire d'empoigne, donc ça dit tout de suite où se place Guilliam, et le pire, c'est qu'il est le pire avocat de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne cesse de montrer, à travers le personnage que joue Adam Driver, Toby, que c'est un réalisateur complètement inconséquent, fou. C'est une espèce d'auto-célébration de sa folie dans un spectacle qui me fait penser, moi, au spectacle du Puy du Fou, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose de ça.
Ah non, parce que je pense que c'est plus excitant, le Puy du Fou, pour le coup.
Ah, peut-être. Je connais mal le Puy du Fou, mais moi, c'est l'image que j'en ai quand on voit la fin du film. Et il arrête pas. À un moment, il dit quand même, je vais avoir besoin d'un très bon avocat. Enfin, il arrête pas d'adresser des clins d'œil à toute cette histoire. J'allais dire, c'est la seule part un peu touchante du film, mais sinon c'est assez triste. Et puis Thierry Guilliam, surtout, on se rend compte à quel point son imaginaire a vieilli et à quel point il n'a pas évolué avec les époques, et j'ai peur de revoir ses films aujourd'hui.
Et puis, disons la vérité, on s'ennuie quand même terriblement, Daniel.
Bon, ben c'est probablement parce que je suis vieille. C'est probablement
Non, t'as pas aimé ça, non, c'est pas vrai.
Ben, je suis désolée.
Je dis la vérité.
Non. J'ai été touchée. Oh. Don Quichotte, c'est lui, c'est Terry Gilliam, vieux monsieur qui n'y arrive pas, qui se prend pour Don Quichotte. Je trouve Jonathan Pryce formidable en Don Quichotte qui se prend pour Don Quichotte, qui se prend pour Don Quichotte, qui se prend pour Don Quichotte. Bon, d'accord, le film est imparfait, boiteux, testamentaire, j'ai été bouleversée.
Pendant 2h12,
j'ai été émue.
T'avais mal dormi l'année dernière.
Le réfugié incarné par Sergi Lopez et Rossi de Palma.
Je suis désolée. Bon, alors, je vous plains beaucoup de vous être emmerdé à ce point-là. Moi, pas du tout. J'ai trouvé effectivement qu'il était bosselé, bizarre, totalement mélancolique, et que c'était un rêve de film qui tournait au cauchemar puis redevenait un rêve.
Ça, c'est vrai.
Et pour lui. Mais qui redevenait un rêve, et le rêve de Terry Gilliam qui est enfin sur l'écran, et moi j'ai été touchée. Basta.
Sophie,
c'est vrai qu'après 30 ans de gestation, on pouvait s'attendre peut-être à mieux, mais néanmoins, je suis assez d'accord avec Daniel, parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont très belles dans le film, et notamment le personnage que joue Jonathan Pryce avec une humanité, une innocence, une malice que je trouve vraiment irrésistible et très drôle dans sa façon, en effet, de se prendre toujours pour Don Quichotte alors que c'est un petit cordonnier, et de traiter Toby, son réalisateur, comme si c'était Sancho Panza. Donc ça, je trouve ça très bien. Le problème du film, c'est qu'il voudrait l'homme qui tua Don Quichotte, c'est lui, évidemment, puisqu'il a enfin tué son rêve, et il a du mal à tuer son rêve. Et alors, la fin, vraiment, il n'arrive pas à tuer Don Quichotte, et ça prend un temps infini, et je pense que la dernière demi-heure, elle massacre le film.
L'homme qui tua Don Quichotte, le film de Terry Gilliam. J'avais inscrit La fête des mères de Marie Castille, mention char. On n'a pas le temps d'en parler. Est-ce que j'ai eu raison de l'inscrire?
Non, t'as eu raison de ne pas avoir le temps, on peut s'en passer.
C'est la mer à boire.
C'est réglé, au revoir.
On a parlé à toute allure pourtant, et on n'a plus de temps.
Mais vous avez parlé à la fois trop vite. Très mal. Trop lentement.
Allez, on recommence.
Non, mais sérieusement, vous le déconseillez, ce film?
On peut sauver des comédiennes très vaillantes.
Oui,
je n'ai pas dû lire le scénario. Audrey Fleurot, Clotilde Courau, la princesse, Olivia Côte, Pascal Arbillot, Carmen Maura, Nicole Garcia et Vincent De Dienne, qui, que je sache, lui, ne fait pas partie des femmes de la distribution.
Non, le problème du film, pour aller vite, c'est qu'elle veut théoriser quelque chose et en même temps elle veut l'incarner.
C'est le seul que je n'ai pas vu.
Et en même temps elle veut l'incarner, donc elle a des cas de figure de mère, il y a trop de personnages. En plus, c'est des personnages de président de la République. Alors on se demande pourquoi elle est allée chercher ça, ce qui rajoute la difficulté.
Il y a une femme qui a une palme d'or aussi à la télé, on voit.
Oui, elle rajoute des difficultés à la difficulté, et le film prend un côté lelouch comme ça, enfin passe d'un truc à l'autre, ça devient un clip, et c'est dommage parce que
les comédiennes sont vaillantes.
C'est qu'une accumulation de clichés filmés comme une pub pour les assurances, et en même temps elle se prend pour Paul Thomas Anderson, époque Magnolia, c'est assez douloureux.
Ah, tu veux dire, c'est la Matmut, mais version Paul.
Voilà, version Magnolia.
Personne, d'accord.
Ça peut pas être pire que l'original.
J'avoue que le Paul Thomas Anderson n'est déjà pas très bon.
Bon.
Mais là.
Tu vas pas sauver la fête des mères, non?
Non, non.
Non. Très bien. Ça nous laisse du temps pour des conseils utiles. Et on va commencer avec Sophie.
Alors, moi, je conseille un film que je trouve à la fois plein de fantaisie et de folie et en même temps assez grave, mine de rien, qui est, parce que c'est un huis clos et ça se passe dans un appartement dont on ne bouge pas. C'est le film d'un premier long métrage d'Ilan Klipper qui s'appelle Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, avec des comédiens qu'on aimerait voir plus souvent, qui sont notamment Laurent Poitrenneau, qui joue le rôle d'un écrivain, qui a eu son heure de gloire et qui n'a pas tenu les promesses et qui doit faire face, à présent qu'il a une cinquantaine d'années, qui doit faire face aux promesses qu'il n'a pas tenues. Et il est dans son appartement, tout le monde s'inquiète autour de lui, et son appartement se transforme en un paysage mental, et c'est un film à la fois plein d'humour et en même temps assez grave. Il y a Laurent Poitrenneau, il y a François Château, il y a Michel Moretti, il y a Camille Chamou, il y a vraiment des comédiennes et des comédiens formidables.
Le conseil de Daniel.
La ressortie en salle, à Paris et en région, du magnifique et terrifiant film Maudit de Michael Powell, Peeping Tom, Le Voyeur. Le Voyeur qui a marqué la fin de la carrière du grand Michael Powell, un film maudit, sorti évidemment en 1960, la même année que Psycho de Hitchcock, ça l'a gêné, qui a été sorti en salle aux États-Unis et retiré au bout de 5 jours, et qui reste, qui a été réhabilité dans les années 80 par Brian De Palma et Martin Scorsese, et qui est toujours aussi terrifiant, que j'ai revu et qu'il faut aller voir ou revoir.
Mon conseil, c'est le numéro de printemps de l'indispensable revue Schnock, que je vous ai souvent conseillé ici, la revue des vieux de 27 à 87 ans, qui fait sa une et son dossier sur Pierre Tchernia, l'éternel monsieur cinéma, et dans lequel il y a une interview aussi vérité de Jean-Loup Dabadie, le scénariste, je vous le rappelle, de César et Rosalie, qui parle formidablement bien de Claude Sautet, évidemment, mais qui règle aussi ses comptes avec Jean Dujardin et avec Michel Polnareff. Et je peux vous dire que c'est du nanan. Vous l'avez eu
le... Oui. Et qui refusait l'interview pendant des années parce qu'il trouve que Schnock est un... Et le concept est un peu vulgaire et qui aujourd'hui regrette pas.
C'est tout sauf vulgaire, c'est élégant, c'est drôle. C'est Schnock, donc, le numéro de printemps.
J'adhère.
D'ailleurs, bon, le conseil de Jean-Marc.
Alors,
c'est trouvé sa voix d'ailleurs avec l'émission.
Presque, quasiment. Hein, ça me fait beaucoup de bien, cette thérapeutique.
Mais oui, mais viens nous voir de temps en temps.
Alors moi, c'est la reprise d'un film qui s'appelle Reprise, qui est un documentaire d'Hervé Leroux sorti en 1997. Ah oui. Qui partait d'un film documentaire des années 60 de 9 minutes où on voyait la reprise du travail des usines Wonder après les grèves de mai 68 et une jeune femme qui refusait de reprendre le travail et faisait une énorme crise de colère en disant qu'elle ne rentrerait pas dans cette tôle parce que les conditions de travail étaient trop dures. Hervé Leroux, 30 ans plus tard, avait décidé de partir à la recherche de cette femme. Et pendant 3h30, il interroge des témoins, des ouvriers, des contremaîtres de l'époque, et il ressuscite toute l'histoire du monde ouvrier au XXe siècle. Et c'est encore plus beau de voir ce film 20 ans après, alors qu'on est passé à un autre état du libéralisme. Et le film, qu'Hervé Leroux a disparu, le film est vraiment bouleversant, c'est un chef-d'œuvre pour moi.
Et enfin, le conseil de Nicolas.
Moi, ce serait la rétrospective Brian De Palma à la Cinémathèque du 31 mai au 4 juillet, avec la présence de De Palma, qui sera là pour une masterclass le 2 juin à 14h30. Et c'est à l'occasion de la sortie de son premier roman qu'il a coécrit avec une certaine Suzanne Lehmann, qui s'appelle Les serpents sont-ils nécessaires. Et c'est intéressant d'aller voir et revoir les De Palma, notamment ce Mal-aimé ou comme Body Double, qui pour moi est un de ses chefs-d'œuvre. Et de revoir aussi le 27 juin ressortent les Dario Argento, la plupart des Dario Argento. Et c'est très intéressant de refaire dialoguer ces enfants terribles d'Hitchcock et d'essayer de deviner qui a inspiré l'un ou plagié l'autre. Donc voilà, je trouve aller revoir les De Palma et les Argento en juin-juillet, ça fait toujours du bien.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Daniel Eman, Jean-Marc Lalanne, Nicolas Chalère, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. À la technique ce soir, au studio Charles Trenet, je les remercie, Philippe Mercher, Nadège Antonini et Nicolas Depagraf. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 7 juin. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée à la littérature et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de théâtre et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.